On va commencer. L'idée de cette réunion, c'est de vous parler un peu du livre L'homme de Kaboul, mais peut-être aussi de vous parler plus largement de l'Afghanistan et de la situation dans cette région. Donc, moi, je vais vous faire un propos liminaire assez court, et puis je répondrai à vos questions, ce sera peut-être le plus intéressant. Juste en deux mots pour me présenter au préalable. Donc, je viens de publier ce livre qui est un livre à suspense. J'ai travaillé il y a maintenant quelques années dans l'administration française. J'étais chargé du contrôle des investissements et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Et à Bercy, je me suis occupé également des sanctions financières contre l'Irak et la Libye, ce qui m'a permis de beaucoup voyager dans cette région du monde et d'acquérir une expérience de ce qui s'y passe. Et ensuite, j'ai été diplomate à l'ambassade de France à Londres pendant quelques années avant de bifurquer vers le privé. Donc le livre, c'est une fiction, c'est un roman policier, un livre à suspense. Et c'est d'abord ça, c'est pas un livre à thèse ou un documentaire sur la région. Par contre, ce qui m'a semblé intéressant dans le livre, c'est d'avoir les trois sujets. Le premier, évidemment, c'est de parler de l'Afghanistan, de ce qui s'y passe, en essayant de montrer le pays sous un jour plus compliqué que ce qu'on peut souvent voir à la télé. Et puis j'ai voulu aussi aborder deux autres sujets qui sont la manière dont Al-Qaïda opère et escalé, et puis également aborder sous un angle plus diffus le problème de la privatisation de la guerre tel qu'on la voit aujourd'hui en Irak et en Afghanistan. Alors on peut peut-être parler brièvement de ces trois sujets. Donc d'abord l'Afghanistan, qui est un pays passionnant, je pense que vous avez tous lu des livres sur l'Afghanistan, où je me suis rendu assez longuement l'année dernière pour enquêter pour ce livre. En fait, vous verrez, si vous le lisez, l'une des thèses de l'ouvrage, c'est que c'est pas du tout un pays monolithique, comme on peut le croire au premier abord, mais un pays qui est traversé, en fait, par différentes ethnies et différentes formes religieuses qui, en fait, sont assez opposées les unes aux autres. Et donc, nous, on voit toujours les Afghans comme un peuple, voilà, les Afghans, alors qu'en fait, vous avez des ethnies très, très différentes. Vous avez les Pashtuns, qui sont les plus nombreux, qui font à peu près 50% de la population, qui sont des Pakistanais au sens large. Très religieux. Vous avez des Tadjiks, qui sont l'ethnie à laquelle appartenait Massoud, qui sont beaucoup plus européanisés et qui sont nos principaux alliés dans la guerre. Vous avez des ethnies qui ressemblent pratiquement à des Asiatiques, qu'on appelle les Hazaras. Vous avez des gens qui sont carrément perses. Et puis vous avez les fameux Nouristani, qu'on voit beaucoup dans le livre, qui sont une ethnie qui sont en fait les descendants de l'armée d'Alexandre le Grand, qui sont restés isolés du monde pendant 2000 ans, islamisés il y a à peine 100 ans, et qui physiquement ressemblent à des Croates ou à des Allemands, enfin qui ont un type physique extrêmement particulier. Donc j'ai trouvé très intéressant dans ce livre de mêler des gens des différentes ethnies, des différentes religions, et de montrer les relations qu'ils ont et la vision qu'ils ont au monde. Alors ce qui est très frappant en fait en Afghanistan, c'est que les gens sont à la fois très proches et très différents. C'est très proche parce qu'ils ont des comportements qui sont les mêmes que les nôtres. À la télé, vous avez des émissions de télé-réalité, comme Afghan Star, par exemple, qui est l'équivalent d'une émission bien connue en France, que tous les jeunes regardent. Vous avez des gens qui s'envoient des textos à longueur de journée. Dans les boutiques, vous voyez de la nourriture occidentale. La grande mode, en ce moment, c'est les chats. Donc vous avez des rayons entiers de nourriture pour chats. Donc il y a des choses très très proches. Et puis à côté de ça, vous avez un pays qui est beaucoup plus marqué par la religion que d'autres. C'est pas une religion qu'on voit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muezzin dans la rue, vous voyez jamais de gens prier. Mais tout est conditionné par la religion. Par exemple, moi, j'ai jamais pu voir les épouses de mes gardes du corps. Quand j'allais chez eux, les femmes préparaient à manger, elles déposaient le plateau à l'entrée de la salle, et l'homme allait chercher le plateau. J'ai jamais pu physiquement même leur dire bonjour. Parce que voilà, une femme ne rencontre pas un homme. Et donc, il y a en même temps cet extrême éloignement intellectuel, philosophique, qui fait qu'on a beaucoup de mal à se comprendre, même quand les gens parlent très bien anglais ou français. Avec une très grande pudeur. Et dans un pays très montagnard, très montagneux, un comportement un peu insulaire. C'est-à-dire, c'est un peu comme en Angleterre ou comme au Japon, dans ces pays qui ont été un peu coupés du reste. Les gens sont très fiers de leur culture et ils ont du mal à se mélanger aux étrangers et à les accepter. On pourra en reparler parce que je pense que vous aurez des questions, notamment sur le combat des femmes afghanes, qui est un des grands sujets du livre, avec beaucoup de personnages féminins qui irriguent le livre. Ensuite, le deuxième sujet qui est abordé, évidemment, c'est le sujet du terrorisme et de la guerre menée aujourd'hui par l'Occident. Essentiellement par les États-Unis, parce que nous, Français, on est présents, mais on est assez peu présents, contrairement à l'impression qu'on en a. on a finalement peu de troupes, hein, même si on a pas mal de dégâts aujourd'hui. Et donc, c'est d'abord, avant tout une guerre américaine. Donc là, j'essaie de me poser la question de la justesse de cette guerre, qui l'était au départ et qui l'est plus, en fait. C'est-à-dire que lorsque, après le 11 septembre, les Américains ont considéré à juste titre qu'on ne pouvait pas laisser le gouvernement qui avait accueilli Ben Laden s'en tirer comme ça, donc le régime taliban a été détruit. Alors, il faut savoir que néanmoins, il y avait des grandes discussions au sein du mouvement taliban entre ceux qui étaient favorables à Al-Qaïda et ceux qui étaient contre. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, Mollah Omar, par exemple, était opposé à Ben Laden et voulait l'expulser. Mais bon, il n'y avait pas d'unité pour ça, et donc finalement, Ben Laden est resté. Mais une grande partie du mouvement taliban, en fait, est un mouvement politique et religieux. On pourrait dire que c'est un mouvement nationaliste islamiste, mais qui ne veut pas faire la révolution islamiste dans le monde. Ils veulent juste qu'en Afghanistan, il y ait un régime islamiste. Et donc, la relation entre Taliban et Al-Qaïda a toujours été très compliquée. J'essaie de l'expliquer dans le livre au travers du personnage d'un mollah un peu éclairé qui s'appelle Mollah Bakir, qui n'a pas vraiment existé, mais qui aurait pu exister, parce que le gouvernement taliban, qui était un gouvernement secret, on ne savait pas quels étaient les membres, était composé aussi de quelques modérés, très soutenu par l'Occident au départ. En 1995-1996, le gouvernement américain a déversé des pluies de dollars sur le régime taliban, parce qu'en fait, ils avaient réglé le trafic de drogue, remis de l'ordre dans le pays, et donc le gouvernement taliban était en fait notre allié, avant de basculer vers le terrorisme. Et donc il y avait une grande ambiguïté au sein de ce mouvement entre les modernistes, même s'ils étaient quand même très islamistes, et puis les autres. Et finalement, bon, c'est les durs qui ont gagné, comme souvent dans des pays en guerre, mais ce n'était pas complètement joué d'avance. Et aujourd'hui, tout le jeu de l'Occident, qui a compris que la guerre était perdue, c'est d'essayer de faire revenir des talibans modérés au pouvoir, de faire un gouvernement d'union nationale qui sera un gouvernement taliban sans le dire, mais qui serait éloigné des errements des anciens talibans. Ce qui est une tâche très très difficile, parce que c'est difficile de distinguer les méchants terroristes des autres, mais qui est néanmoins l'exercice en cours actuellement en Afghanistan. Et puis le troisième sujet que j'essaye d'aborder dans le livre, c'est celui de la privatisation de la guerre, qui est aujourd'hui une réalité. Il y a 15 000 opérateurs privés en Afghanistan, qui sont des soldats qui n'en portent pas le nom. Pas mal de Français, d'anciens des forces spéciales, évidemment pas mal de toutes les armées occidentales, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais, beaucoup de Sud-Africains. Et puis la piétaille. La piétaille, c'est des soldats qui viennent beaucoup d'Amérique du Sud, des anciens Contras, des Nicaraguayens, des Salvadoriens, qui ont l'avantage d'être entraînés au combat, de ne pas coûter cher, et puis quand ils meurent, tout le monde s'en moque, donc ils font le sale boulot. Donc vous voyez beaucoup dans le checkpoint et puis sur le terrain, vous voyez beaucoup de nationalité un peu improbable, parce que c'est vrai que de voir des Salvadoriens faire la guerre en Afghanistan, c'est un peu étonnant au premier abord, mais ils sont là. Et évidemment, alors l'avantage pour l'Occident, c'est que ça coûte moins cher, c'est que quand un contracteur privé se fait tuer, bah, ça ne fait pas les gros titres des journaux, il y a beaucoup plus de morts chez les contracteurs que dans les soldats officiels. L'inconvénient, c'est qu'ils ne sont évidemment pas soumis au même type de contrôle, et qu'ils ont parfois un comportement limite, pas toujours le cas, parce que souvent ils sont très professionnels, mais pas toujours. Et ça pose donc un problème déontologique qui est, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la guerre avec des gens qui ne sont pas des mercenaires, enfin qui sont quand même payés pour faire la guerre. Voilà, donc c'est tout ce type de questions que j'essaye d'aborder dans le livre, au travers encore une fois d'un roman à suspense, parce que ce qui marche, c'est qu'il faut avoir envie de tourner les pages et de savoir ce qui se passe. Alors, peut-être avant de vous parler du livre lui-même, juste un petit point d'actualité, mais je pense qu'on en reparlera aussi. Il y a une thèse en filigrane du livre, même si elle n'apparaît pas sous forme de thèse, qui est la grande proximité entre le Pakistan et Al-Qaïda, qui est quelque chose qu'on savait globalement dans les milieux dits autorisés depuis des années, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a appris où était caché Ben Laden, la manière dont il était protégé par l'armée pakistanaise au cœur même du complexe militaro-industriel pakistanais à Abbottabad, on a tous été stupéfaits. Moi, j'avoue que je ne l'imaginais pas du tout à 100 km du Cachemire indien, je l'imaginais beaucoup plus dans des zones tribales. Et donc, ça dit beaucoup de choses quand même sur ce qui se passe actuellement dans cette région, sur le double jeu des Pakistanais, qu'on connaissait encore une fois parce qu'on savait que Ben Laden était protégé par un taliban très dangereux qui s'appelle Jalaluddin Haqqani, qui est un chef de guerre afghan qui est aussi un agent de l'ISI, des services secrets pakistanais, connu comme tel. Donc on savait par Haqqani qu'il y avait une proximité très très forte entre Ben Laden et le Pakistan. Mais c'est vrai que ce qu'on a appris, ce qu'on est en train d'apprendre tous les jours, parce que les archives commencent à parler, et ce qu'elles livrent n'est pas franchement ragoûtant pour les Pakistanais, montre qu'on a quand même été manipulés globalement, et que voilà, beaucoup de gens ont été tués en Occident et ailleurs, avec une protection des Pakistanais derrière, ce qui est quand même un vrai problème diplomatique. Alors maintenant, parlons un peu du livre, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Alors, c'est un roman policier. Le héros, c'est le patron de la brigade criminelle de Kaboul. Il s'appelle Oussama Kandahar. Bonjour, madame. C'est un flic honnête, dans un monde corrompu. Alors, c'est un homme qui est à la fois très dur. C'est un ancien sniper. Il a travaillé avec Massoud. Et puis, en même temps, il a une femme très, très dynamique, très autonome, qui est médecin, qui fait partie d'un mouvement qui existe vraiment, qui s'appelle la Rawa, qui est un mouvement secret de femmes pakistanaises et afghanes qui veulent défendre leurs droits. Et c'est une femme qui refuse qu'il ait d'autres femmes et qui fait un peu, c'est vrai, la loi à la maison. Ce qui lui pose des problèmes parce que du coup, tous ses collègues le moquent parce que voilà, il n'est pas suffisamment dur avec son épouse. Et donc, il y a ce duo un peu improbable qui est entraîné dans une affaire de mort suspecte. Un homme qui est découvert un jour chez lui, assassiné, enfin, soi-disant suicidé d'une balle dans la tête. Et Oussama Kandahar dit « c'est pas un suicide, c'est un meurtre ». Et il décide d'enquêter. Et en enquêtant, il tombe sur la trace d'un rapport secret qui semble contenir des vérités particulièrement gênantes pour les Occidentaux. À ce moment-là, on essaye de le tuer et commence une course-poursuite à travers l'Afghanistan, lui, pour retrouver le fameux rapport, et puis une mystérieuse officine et des talibans qui essayent de le tuer. Donc c'est un peu l'occasion pour le lecteur de parcourir l'Afghanistan, qui est un pays extraordinairement beau. On voit des paysages qu'on ne voit nulle part ailleurs, vraiment sauvage. C'est absolument extraordinaire. J'ai essayé de rendre cette beauté du paysage. J'ai aussi de montrer l'humanité des habitants, parce que vous avez des gens très très brutaux et d'une sauvagerie extrême, et puis en même temps vous avez des gens très accueillants qui vous donnent tout ce qu'ils ont. Alors on découvre comment ils vivent. Il y a un auteur anglais qui a dit dans beaucoup de villages afghans, le seul élément moderne, c'est la Kalachnikov. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert des endroits où voilà, où il n'y a pas d'électricité, où on n'a jamais lu un livre à part le Coran, où il n'y a rien. Et puis en même temps, des gens vous font une fête en vous accueillant, vous offrent des plats extraordinaires. Par exemple, le riz afghan est le meilleur au monde. Il est cultivé dans des montagnes extrêmement... au pied de montagnes extrêmement hautes qui montent jusqu'à 5000 mètres, avec une eau qui est la plus pure du monde, puisqu'il n'y a aucune activité humaine, qui en permanence se déverse. Donc, au lieu d'avoir des rizières, vous avez cette eau qui coule en continu, et ça vous fait des riz avec des grains qui font la taille d'un demi-doigt, avec un goût absolument inouï. Ils mangent beaucoup d'œufs. Le principe du régime des pauvres afghans, c'est des œufs, mais ils les font avec plein d'épices. Donc, on a vraiment. Enfin, moi, j'ai eu la possibilité de rencontrer des gens extraordinaires. Et puis, en même temps, on mange avec une Kalachnikov chargeur engagé, des grenades sur la table, parce que, bon, voilà, il y a un occidental qui est là et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, le mélange entre le danger extrême qu'elle a en permanence la capacité de rencontrer des gens extraordinaires, ça a fait pour moi une découverte vraiment bouleversante que j'ai essayé de rendre à travers ce livre. Et enfin, pour finir, et puis on va passer peut-être à la discussion, ce sera plus intéressant, et on pourra parler de tout ça. Je voudrais dire que c'est un pays dangereux, où on ne peut plus aller aujourd'hui si on n'a pas un système de sécurité très étendu, en tout cas en dehors de Kaboul, puisque moi j'avais en permanence plusieurs gardes du corps et une voiture blindée. Mais il y a aujourd'hui une réflexion en cours pour, dans une zone sécurisée du Panjshir, ouvrir des guides des endroits de pêche pour des pêcheurs à la mouche, très sécurisés, et de redonner des visas de tourisme. Et donc il est possible que d'ici 2-3 ans, le pays puisse à peu près se rouvrir à un tourisme dans une toute petite partie du pays. Et j'espère de tout cœur que ça marchera. Alors en fait, il y a deux types de femmes en fait en Afghanistan. Il y a les femmes des villes et les femmes des campagnes. Donc les femmes des villes, elles peuvent se battre, faire valoir leurs droits, beaucoup travaillent. Et moi j'ai rencontré vraiment un nombre vraiment important de femmes qui travaillent dans tous les métiers. Mais c'est un combat. C'est-à-dire que par exemple, je l'ai mis d'ailleurs dans le livre, une femme qui travaillait au service des immatriculations de la préfecture de Kaboul. Bon, ben pour elle, elle travaillait du temps des Russes, elle a été sortie évidemment du temps des talibans, là, elle a repris son job, mais c'est un combat permanent, elle se fait insulter par des hommes, on veut l'obliger à mettre un voile, elle ne veut pas, donc elle a un voile mais qui dévoile ses cheveux. Beaucoup ont souffert, elle par exemple, il lui manquait un doigt, deux doigts qui avaient été coupés au sécateur par, par des talibans parce qu'elle portait du vernis à ongles. Donc en fait, vernis à ongles égale punition, donc la punition ça avait été de lui couper deux doigts. Et elle m'avait dit, elle ne me l'a pas vraiment dit, mais elle me l'a presque dit, qu'elle avait échappé au pire parce qu'elle était très très belle. Donc, bon, il a fallu que malheureusement qu'elle accepte des choses qu'elle ne voulait pas accepter. Et elle a eu cette phrase incroyable et horrible, heureusement il n'était que trois. Alors deux de ses agresseurs ont été visiblement abattus après, quand le régime est tombé. Mais un, elle m'a dit l'avoir vu dans la rue un jour avec un uniforme de policier. Et elle l'a reconnu, mais lui ne l'a pas reconnu. Elle m'a dit que c'était vraiment un traumatisme, c'est-à-dire qu'elle pensait souvent à cet homme. Et elle m'a dit il riait en me coupant les doigts. Voilà. Donc il y a une violence inouïe, et les femmes ont été à la fois des principales victimes de cette violence, mais en même temps essayent de se battre avec beaucoup de courage. Alors, dans les campagnes, c'est presque pas possible. Dans les campagnes, elles sont complètement... Elles sont vraiment sous les coupes de leur mari. Et puis avec des choses vraiment horribles. C'est-à-dire que vous avez une femme qui est mariée à un homme de 25 ans. Donc, elle a 20 ans ou 16 ans, il en a 25. Il meurt. Ben on va la marier de force à son oncle, qui en a 60. Et elle peut rien dire. Donc, il y a quand même... Vraiment, c'est difficile. Dans les villes... Quand même, je me suis dit qu'il y a quand même de l'espoir. Parce que d'abord, elles arrivent à faire des études, y compris des études supérieures. Elles arrivent à s'organiser. Il y a aujourd'hui une femme au Parlement qui est vraiment très bien, que j'ai rencontrée, qui est une femme très courageuse, qui affirme le droit des femmes. Alors, bon, la plus connue, c'était le capitaine Malalai Koukour, hein, qui était la patronne, une des patronnes de la police de Kandahar, que je n'ai pas pu voir parce qu'elle a été assassinée... un peu avant que j'arrive, et qui était une femme visiblement extraordinaire. Donc voilà, une grande violence, en même temps des femmes qui se battent et qui ne se laissent pas faire, y compris au travers de cette fameuse Rawa, cette organisation secrète, et quand même, dans les grandes villes, une situation qui s'améliore. Alors c'est tout l'enjeu des prochaines années. Est-ce que en faisant venir des talibans, on arrivera à empêcher le retour à l'ordre ancien ou pas ? Alors je cite dans le livre, à la fin, il y a un discours du Mollah Bakir qui explique que les talibans ont introduit du temps de leur règne dans le code civil afghan une clause qui stipulait que les femmes avaient le droit à une demi-part lorsque le mari mourait. Ce qui en fait est normalement une vision du Coran, c'est-à-dire qu'une femme vaut la moitié d'un homme, donc elle a le droit à une demi-part. Mais à l'époque, ils avaient été très critiqués parce que les femmes avaient droit à rien. C'est-à-dire que quand le mari mourait, c'était zéro. Et donc, c'est une discussion un peu folle où c'est finalement un progrès que de dire qu'une femme vaut la moitié d'un homme. Mais néanmoins, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Et lui, il le dit, comme Mollah éclairé, il dit voilà, il ne faut pas se battre pour des combats qui ne mènent à rien. Mieux valait la moitié de quelque chose que l'intégralité de tout. Et donc il en parle de manière assez politique, assez subtile, parce que c'est un personnage très subtil que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que la principale raison qui fait que les armées occidentales sont légitimes à être présentes, c'est le droit des femmes. C'est de protéger les femmes. Alors, celles qui sont les plus libres, c'est celles qui sont au sud du pays, à la limite de l'Iran. Parce qu'en fait, en Iran, contrairement à l'image qu'on en a, les Iraniennes ont été très très libres, en fait, du temps après la chute de Mossadegh, donc en 53 et jusqu'en 79. Et donc, il y a une grande culture de la liberté des femmes. Et puis, la culture perse est assez moderne. Et en dépit du régime islamiste, elles gardent beaucoup de liberté. Elles peuvent être médecins, elles peuvent être pilotes de ligne, elles peuvent être... voilà. Et d'ailleurs, dans la région, c'est le cas dans beaucoup de pays. Moi, j'étais frappé quand je suis arrivé en Afghanistan, j'ai pris l'avion à Dubaï. C'est une femme qui pilotait l'avion. Donc, c'était drôle d'arriver en Afghanistan dans un avion piloté par une femme. Voilà. J'aime la parenthèse. Donc là, dans le sud du pays, oui, les femmes perses sont assez libres. En zone tadjik aussi. Et ça, ça m'a frappé aussi dans le Panchir. Moi, j'ai mangé dans la maison de Massoud et dans le village de Massoud. Les femmes, avaient vraiment, même si je ne pouvais pas leur parler, elles étaient toujours séparées. J'en voyais qui travaillaient au loin, qui conduisaient des voitures. Le problème fondamental de l'Afghanistan, c'est le problème Pashtoun, qui est l'ethnie, entre guillemets, un peu rétrograde. Et là, franchement, ce n'est pas facile. Ouais. J'ai rencontré un médecin légiste. Alors lui, tiens, c'est lui, j'ai pu rencontrer sa femme, qui m'a invité très gentiment à assister à une autopsie, comme si c'était vraiment la chose la plus naturelle du monde. J'avoue que ça a été le moment le plus difficile du... Non pas l'autopsie elle-même, parce que je suis resté un peu en dehors, mais la vision de l'hôpital médico-légal de Kaboul est quelque chose qui tient plus du tableau de Bosch que d'autres choses. C'était vraiment invraisemblable. Mais lui est d'ailleurs un bon docteur, assez sympa, qui croit vraiment en son métier. Et Pashtoun, et sa femme était bibliothécaire. Alors, elle m'a dit que ça a été un problème, parce qu'en fait, du temps des talibans, il n'y avait plus de livres. Ils ont brûlé tous les livres. Donc, elle était bibliothécaire dans une bibliothèque qui continue d'exister, mais où il n'y avait pas de livres. Il n'y avait que des Corans. Et où en plus il y avait des salles pour les femmes et des salles pour les hommes. Et comme les femmes n'avaient plus le droit de lire ou de s'éduquer, ou de certains temps ils ont fermé les salles pour les femmes. Donc elle était responsable de la partie femmes, mais il n'y avait plus de femmes qui pouvaient rentrer. Et elle avait beaucoup d'humour, c'était assez sympathique de passer une soirée avec elle et avec son mari. Mais encore une fois, c'est des rencontres avec des gens très particuliers, et on ne peut pas en tirer des lois générales. Sinon, il faut mettre du Vicks Vaporub sous le nez quand on rentre dans l'Institut médico-légal afghan. Je sais pas, je peux parler de beaucoup d'autres sujets autour de l'Afghanistan, du Pakistan, de Ben Laden. Dans les campagnes, ils commencent à être scolarisés. Il y a une campagne de terreur des talibans pour fermer les écoles, mais la population résiste beaucoup. Et dans les zones qui ne sont pas tenues par les talibans, ils continuent à aller à l'école. Malheureusement, comme l'influence taliban s'agrandit, il y a beaucoup de zones où ils allaient à l'école il y a 2-3 ans, ils ne vont pas. C'est-à-dire que la situation s'est beaucoup dégradée depuis 2-3 ans. Après 2002-2003, vous pouviez aller à Kaboul, vous balader sans armes, sortir, visiter, aller... Aujourd'hui, c'est plus possible. À Kaboul même, oui, on voit énormément d'écoliers dans la rue, garçons et filles, ils ont des uniformes très différents d'ailleurs. Les filles ne sont pas voilées assez tard, ça m'a frappé. On voit beaucoup de femmes non voilées d'ailleurs, mais et les filles peuvent aller à l'école jusqu'au lycée. Donc on voit des collégiennes, on voit des lycéennes, jusqu'à 13-14 ans. Après, on ne les voit plus. En tout cas, on ne voit plus les filles. Mais je ne sais pas si c'est parce que les lycées étaient dans les endroits où je ne suis pas allé, ou c'est parce qu'il n'y a pas de lycée pour filles. Mais on voit énormément de collégiens. Ils sont très sympas, ils se marrent dans la rue, vous pouvez discuter avec eux quand ils parlent anglais. Ils vous offrent des petits carambars locaux, enfin c'est très sympa. Moi j'ai passé du temps avec des gamins, ils sont très malins, ils ont une grande soif de voir des occidentaux, et il y a énormément, enfin j'ai été frappé justement du nombre de filles écolières que je voyais, avec une très grande soif d'apprendre et de s'en sortir par les études. Et ça on le voit dans les émissions de télé, je veux dire, typiquement dans Afghan Star, vous les voyez en train de se déhancher en chantant des chansons, certes afghanes, mais... Donc c'est... Ah non, elle ne fait que s'agrandir. Elle est chaque jour un peu plus grande. Évidemment. Tous les jours un peu plus grande. On a perdu la bataille des cœurs pour une raison simple et qu'on peut comprendre, c'est que la stratégie militaire américaine, quand il y a des attentats suicides, c'est de protéger au maximum les soldats. Donc qui dit protection des soldats dit équipement, donc déjà des grosses lunettoires blindées, des casques. Donc déjà, d'avoir des gens dont vous ne voyez jamais le regard avec des lunettes noires, c'est très angoissant. Ensuite, pour ne pas se faire tirer dessus, les convois se sont mis à rouler de plus en plus vite. Donc nous, quand on était à Kaboul, dès qu'on y a un convoi américain, on se poussait parce que sinon, ils peuvent vous tirer dessus, puis ils vont vraiment très vite. Ensuite, il y a la méthode d'intervention, c'est-à-dire que vous recevez des renseignements, on vous dit, madame, en fait, elle est proche des talibans, donc à 2h du matin, les soldats américains, ils rentrent chez vous, ils défoncent votre porte, parce que évidemment, si vous êtes des talibans, vous allez vous faire sauter, ils vous mettent en joue, les gamins hurlent, ils vous parlent dans une langue que vous ne comprenez pas, il y a des interprètes qui ne sont pas venus, donc du coup, ils parlent en anglais. Bon, tout ça, en 5-6 ans, ça crée une accumulation de rancœur et de haine qui fait que les gens qui ont été accueillis très très bien au départ ne le sont plus aujourd'hui. Et puis comme il y a de plus en plus d'attentats, que la situation est de plus en plus tendue, même s'il y a une apparence de normalité, tout le monde est très nerveux. Et donc, par exemple, moi, j'ai un copain qui est là-bas. Il n'avait pas le droit de venir me voir à mon hôtel parce que c'est dangereux, ça peut sauter. Donc, vous pouvez le voir uniquement dans un campement sécurisé. Ils sortent plus en ville. Bon, tout ça, ça fait que ils veulent plus de nous. Hein. Ils veulent plus de nous. Ils savent qu'ils ont besoin de nous, mais en même temps, le gouvernement est tellement corrompu, tout l'argent est volé. Vous avez à la fois des gens qui sont payés 60-70 dollars par mois. Et puis vous rencontrez dans des restaurants, vous voyez des hommes avec des Rolex à 20 000, 30 000 dollars, c'est-à-dire 500 ans de salaire. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, on estime que 80-90% de l'argent qu'on déverse est volé. Ce qui n'est pas utilisé par nous directement est détourné. Karzai lui-même, on ne sait pas s'il est malhonnête. Son frère est le principal responsable du trafic de drogue dans la région de Kandahar. C'est un mafieux notoire. Et puis autour de lui s'agitent des gens très très malhonnêtes. Et certaines personnes très honnêtes sont poussées. Par exemple, l'ancien patron des services secrets, qui s'appelle Amroula Saleh, qui est un Tadjik très dur, très intelligent, qui ne parlait pas français mais qui est un grand admirateur de la France, a été poussé parce qu'il était trop honnête et trop proche de nous. Il était remplacé par un pachtoun très probablement corrompu. Donc tout ça tourne, ne sent pas bon, en fait. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis écrivain. Donc déjà, j'aurais pu ne pas écrire le livre. J'aurais pu écrire le livre sans y aller. Ah, oui, mais je m'occupais de l'Irak et de la Libye. Donc l'Irak, c'était simple, on était en guerre, on les avait écrasés, il fallait simplement récupérer l'argent de Saddam Hussein. On a récupéré beaucoup d'argent, notamment en France, qui était caché. Mais ça, je peux pas en parler. Et la Libye, c'était un peu différent. C'était à l'époque où Tripoli soutenait les réseaux terroristes. Et donc on voulait frapper le lien entre terrorisme et régime financeur, qui est un lien assez facile à couper, parce qu'en fait, l'argent passe par des banques, il passe par des comptes officiels, donc vous pouvez retracer quand même des mouvements financiers, et quand vous les coupez au milieu, vous pouvez quand même faire mal. L'Afghanistan, voilà, moi j'y suis allé parce que je pensais qu'il y avait une manière d'honnêteté vis-à-vis des lecteurs d'aller sur place, mais en travaillant beaucoup en amont, vous pouvez quand même dire des choses sans y aller. J'aurais pu presque ne pas y aller, en fait. Mais voilà, je trouvais que c'était plus honnête. Alors après, pourquoi est-ce que j'ai eu toutes ces informations? Parce que je n'ai pas dit que j'étais écrivain. J'ai dit que j'étais toujours diplomate. Hein. Donc ils m'ont pris quand j'étais chez les policiers, ils me prenaient pour un flic. Quand j'étais chez les diplomates, ils me prenaient pour un diplomate. Quand j'étais chez les médecins légistes, ils me prenaient pour je ne sais pas quoi. Et puis avec la complicité de l'ambassade qui m'a beaucoup aidé, j'ai pu voir tous les gens que je voulais. Et dans ce pays, vous ne prenez pas des rendez-vous un mois à l'avance. Vous ne dites pas « Est-ce que je peux vous voir le 18 juillet à 14h ?» Vous y allez, et puis quelqu'un de l'ambassade vous accompagne. Après, bon, des copains, j'ai des amis sur place, compris des rendez-vous, et puis les choses se font comme ça. Alors, il faut être accompagné parce que vous ne savez jamais vraiment qui vous allez voir. Parfois, quand c'est des officiels, ça va. Quand ce n'est pas des officiels, on vous donne rendez-vous au milieu de nulle part, dans un quartier complètement invraisemblable de Kaboul. Il n'y a pas de route, les rues n'ont pas de numéro, enfin n'ont pas de nom, les maisons n'ont pas de numéro. Donc c'est quand même assez compliqué de se déplacer, il faut quand même être un peu vigilant, mais comme j'étais jamais seul, les choses se passaient bien. Et ça permet de donner ce vécu. Et en même temps, je n'ai pas pris de risques inconsidérés, il ne faut pas croire que c'était une opération tête brûlée. Si vous faites les choses proprement, que vous dites où vous allez, que vous dites qui vous allez rencontrer, que vous êtes toujours protégé et armé. Vous pouvez pas éviter un attentat suicide, vous pouvez pas éviter qu'on vous tue, mais vous pouvez éviter qu'on vous enlève, ce qui est le plus dangereux. Je pense à nos deux collègues journalistes. C'est vrai que les deux journalistes de France 2, ils ont été à la fois très courageux, ils ont voulu faire leur boulot, mais ils sont allés se jeter dans la gueule du loup de manière invraisemblable, en fait, malheureusement. J'espère que le livre vous plaira. Merci beaucoup.